Nous allons maintenant à Tel Dan. Cet endroit est un endroit particulier pour la raison suivante. C'était le poste frontière le plus au nord d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament. Vous voyez, déjà en 1 Samuel 3, verset 20, nous lisons « Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, sut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. » Ou par exemple, 1 Roi 4, 25, « Et Juda et Israël habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Beersheba, tous les jours de Salomon. » Il y a bien d'autres passages qui parlent donc de ces deux extrémités d'Israël. Beersheba au sud, Tel Dan au nord. Dans le passé, on a appelé cet endroit en arabe Tel El-Keda, Kedi. Et Kedi, ça veut dire en arabe juge. Mais c'est exactement la même chose comme le terme hébreu Dan, veut dire juge. En 1838, le chercheur Robinson a fait pour la première fois une identification de Tel El-Kadi avec la ville biblique de Dan. Et dès 1966, c'était le professeur Abraham Biran en hébreu, qui a travaillé pendant des dizaines d'années à Tel Dan. C'est son œuvre de vie, on peut dire. En 2008, Abraham Biran meurt un mois avant son 99e anniversaire. Donc, quand vous pensez à Dan et l'archéologie, il faut retenir le nom de Abraham Biran. Eh bien, je rappelle la chronologie biblique. Abraham est venu à Canaan vers 2036 avant Jésus-Christ. C'était là le moment où Dieu a fait à Sichem l'alliance avec Abraham. Et 430 ans plus tard, l'exode hors d'Égypte et l'alliance au Sinaï, 1606 avant Jésus-Christ. 40 ans plus tard, la conquête du pays, 1566 avant Jésus-Christ. Ensuite, l'époque des juges pendant 45 années, selon Actes 13. Et puis, on a plusieurs passages qui disent que Saül a régné 40 ans, David 40 ans et Salomon 40 ans. Et ensuite, le schisme en Israël, entre Israël et Juda, 976 avant Jésus-Christ. Et voilà finalement la destruction de Jérusalem à l'an 586 avant Jésus-Christ, où les Juifs étaient amenés en captivité à Babylone. Eh bien, cette chronologie est de nouveau confirmée par Tel Dan. Mais si on suit donc cette chronologie fausse, mais très largement utilisée dans l'archéologie, on ne va pas trouver les liens avec l'histoire biblique, comme il faut. Eh bien, Dan se situe vers une des sources du Jourdain. Vous la voyez ici, elle fait sortir 13 mètres cubes par minute, ce qui veut dire 250 millions par an. Et voilà une température qui est stable pendant toute l'année, autour de 14,5 degrés. C'est une bonne eau que vous trouvez ici. Et voyez, lorsque vous allez une fois visiter Dan, il faut prendre du temps pour faire une grande promenade. C'est un endroit très romantique. D'ailleurs, ma fille aînée, elle a dit, quand je vais me marier, je me marie à Tel Dan. Alors, ça veut dire quelque chose. Et vous voyez, on peut mélanger donc l'archéologie au romantisme. C'est vraiment de toute beauté. Eh bien, ici, vous voyez la porte de la ville à l'époque cananéenne, vers 1700 avant Jésus-Christ. Bien sûr, il y a des traces qui remontent jusqu'au troisième millénaire, comme pour Hatzor, puisque les Cananéens, les descendants de Canaan, qui était de son côté un descendant de Cam, fils de Noé, ils sont arrivés après le déluge pour habiter dans ce pays. Et voilà, cette porte des Cananéens. D'ailleurs, cette ville est appelée dans la Bible Dan, par exemple déjà en Genèse 14:14, à l'époque d'Abraham, et aussi Léchem, en Josué 19:47, et un autre nom encore, c'est Laïs, Juges 18, verset 7. C'est une porte d'entrée très large, de plus de 15 mètres, une hauteur de 7 mètres, un passage d'entrée de plus de 10 mètres, avec à l'intérieur 4 chambres. Et c'est construit de briques d'argile cuites au soleil, recouvertes d'un vernis de plâtre blanc. Vous ne le voyez pas clairement ici, mais on a retrouvé des restes pour déduire cela. On trouve dans la porte, dans la maison, 3 arches. Déjà à cette époque. Ce n'est pas le Moyen-Âge, n'est-ce pas? Déjà à cette époque, ils étaient capables de construire cela. Voilà 2 tours des 2 côtés. Et des tours à une hauteur de plus de 5 mètres. Et l'épaisseur des murs est de 3 mètres à 3 mètres et demi. C'est pas mal, hein? Et même l'épaisseur du mur de la porte est encore de 1,8 m. Nous sommes placés là sur la photo. En voyant la photo, nous sommes placés sur la route principale devant la ville, qui est donc plus bas et à une distance de l'entrée de plus de 14 mètres. Eh bien, la conquête de Dan ou Laïch ou Léchem est décrite entre autres en Josué 19:47. Et la frontière des fils de Dan, un des tribus d'Israël, et la frontière des fils de Dan se terminait par elle. Et les fils de Dan montèrent et combattirent contre Léchem et la prirent, et la frappèrent par le tranchant de l'épée et en prirent possession et y habitèrent. Et ils appelèrent Léchem Dan, du nom de Dan, leur père. Ça explique le changement de nom. Juges 18, 27. Une autre description. Et eux prirent ce que Miché avait fait et le sacrificateur qu'il avait, et vinrent à Laïs, vers un peuple tranquille et confiant. Et ils les frappèrent par le tranchant de l'épée et brûlèrent au feu leur ville. Intéressant. Nous avons vu que ce n'était pas normal qu'Israël a brûlé les villes sur l'étel, mais il n'est pas seulement dit de Jéricho, de Bethel, de Hatzor, mais également de Dan. On devait trouver les traces. On les a trouvées. Et il n'y avait personne qui la délivra, car elle était loin de Sidon et il n'avait commerce avec personne. Elle était dans la vallée qui est vers Beth-Rehob, et ils bâtirent la ville et y habitèrent. Et ils appelèrent le nom de la ville Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Mais au commencement, le nom de la ville était Laïs. Eh bien, à Tel Dan, on a trouvé une énorme couche de cendres qui fait partie de la bronze moyenne, 2B à C, ce qu'on date en archéologie vers 1560 avant Jésus-Christ. Donc, cela est absolument en accord avec la chronologie stricte de la Bible. L'époque de Josué ou Dan, les Danites ont conquis cette ville. Et maintenant, on a trouvé l'endroit du veau d'or à Dan. Parce que la Bible nous raconte comme plus tard, le roi Jéroboam, après la mort de Salomon, il a choisi Dan pour être un lieu d'idolâtrie, pour adorer là un veau d'or. Et on a trouvé cet endroit. Je lis en 1 Rois 12, 25, où il est question de Jéroboam, qui, selon la chronologie biblique, a régné de 975 à 954 avant Jésus-Christ. Et Jéroboam bâtit Sichem, c'est aujourd'hui Naplouse, dans le territoire dit occupé. Et Jéroboam bâtit Sichem dans la montagne d'Éphraïm et y habita. Il sortit de là et bâtit Penuel. Et Jéroboam dit en son cœur, « Maintenant, le royaume retournera à la maison de David. » Beth David, c'est la dynastie de la famille du roi David. « Si ce peuple monte pour offrir des sacrifices dans la maison de l'Éternel, à Jérusalem, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur. » À Roboam, roi de Juda, « Et ils me tueront et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. » Vous voyez, après le schisme en Israël, entre les 10 tribus au nord, appelées Israël, et les 2 tribus au sud, appelées Juda, Jéroboam avait un problème, puisque la Torah, les livres de Moïse, appelle tous les Israélites à venir 3 fois par an à Jérusalem pour adorer l'Éternel au temple. Eh bien, Jéroboam était conscient, si mon peuple, 3 fois par an, va vers l'autre nation, à Juda, à Jérusalem, pour adorer l'Éternel, alors ils vont se relier avec la dynastie de David, la maison de David, et finalement ils vont guérir cette séparation. Ça serait terrible! Parce que je vais perdre mon pouvoir, ils vont me tuer. Donc il faut trouver une alternative. Voilà, verset 28. Et le roi prit conseil et fit 2 veaux d'or. Et dit au peuple, c'est trop pour vous de monter à Jérusalem. Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et l'ont mis un à Bethel, au sud de son royaume, et l'autre, il le plaça à Dan, donc à l'extrémité nord de son royaume. Et cela devint un péché, et le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Et il fit une maison de haut lieu, et établit des sacrificateurs d'entre toutes les classes du peuple, lesquels n'étaient pas des fils de Lévi. Et Jéroboam établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui avait lieu en Juda, et l'offrit sur l'autel. Il fit ainsi à Bethel, sacrifiant au veau qu'il avait fait, et il plaça à Bethel les sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait établis. Donc, il fait un mélange de religions. N'est-ce pas? L'Éternel s'est présenté à Israël dès l'exode de l'Égypte comme l'Éternel qui a fait sortir les fils d'Israël de l'Égypte. Et voilà, Jéroboam dit, ces 2 veaux, ce sont tes dieux, Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. En plus, il établit une fête. Et le texte nous dit, comme la fête qui avait lieu en Juda. Mais c'est quelle fête? Eh bien, ha-chag en hébreu, la fête, c'est un terme qui est attribué dans la Bible à la fête des tabernacles. La 7e fête des 7 fêtes de l'Éternel, Lévitique 23. Car cette 7e fête, elle a résumé en quelque sorte toutes les autres fêtes de l'Éternel. C'est pour ça, dans la Bible, cette fête est appelée Hachak, la fête, qui avait lieu, selon la Torah, le 15e jour du 7e mois. Eh bien, il a copié ça, mais pas tout à fait. Et il l'a mis au 8e mois, le 15e jour du mois. Vous voyez? Donc, il mélange les religions, et cela devient un péché pour Israël. Eh bien, mélanger des religions, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on appelle ça syncrétisme. Ce qui est très moderne, n'est-ce pas? Quand on mélange, on prend un peu du bouddhisme, un peu de l'hindouisme, un peu du christianisme, etc. Et chacun peut faire sa propre religion. Eh bien, vous voyez, c'est de la neige de hier. C'est tellement... C'est pas quelque chose de moderne. On voit déjà un Jéroboam qui a fait du syncrétisme, et pas seulement lui. Et vous voyez, le texte nous dit même qu'il a offert sur l'autel, et cela, l'autel à Dan. On a trouvé cet autel. Vous voyez ici l'entrée vers cette enceinte de la veau d'or. Et maintenant, vous voyez la reconstruction de l'autel, ici. On a retrouvé pas toutes les pierres de l'autel, mais quelques-uns, même une pierre qui formait une des quatre cornes au coin. Mais elle se trouve au musée, c'est pour ça qu'elle n'est pas ici sur place. Alors, on sait exactement comment cet autel était construit à l'époque. Et d'ailleurs, les veaux d'or, c'est quelque chose qui vient de l'Égypte. Cela nous rappelle le culte d'Apis en Égypte. Et c'est pour ça, juste après l'Exode, Israël a déjà commencé pour une première fois de se détourner de l'Éternel en faisant un veau d'or. Ce n'était pas de la religion cananéenne, c'était pris de la religion égyptienne. Et Jéroboam, en plus que les Israélites à l'époque avaient largement la tendance vers la religion cananéenne, il introduit aussi la religion égyptienne. Vous voyez cette tension des religions autour d'Israël qui était une séduction. Et ce qui est remarquable, la Bible nous dit, il s'appelait Jéroboam, fils de Nébat. Nébat, ce n'est pas hébreu, c'est un nom égyptien. Nébat qui veut dire Hathor, la déesse Hathor d'Égypte. Donc il y avait un lien avec l'Égypte dans cette famille. Et ce qui est aussi remarquable, lorsque Salomon était encore en vie, Jéroboam était devenu un ennemi de Salomon. Il a dû s'enfuir en Égypte. Et seulement après la mort de Salomon, il est revenu de l'Égypte. Et vous voyez donc ce lien avec la religion égyptienne. Voilà, plusieurs vues, je ne dois pas expliquer tous les détails, c'est visible. Et ici, vous voyez encore les restes de pierres pour monter sur l'autel qui formait un escalier. C'est remarquable parce que Exode 20 a défendu à Israël de faire des escaliers pour monter un autel. Pourquoi ? Pour éviter, quand les sacrificateurs montaient sur des escaliers, on pouvait voir un peu de la peau, de la chair de leurs pieds. Eh bien, ça avait une signification très profonde, parce que dans la religion des Cananéens, la prostitution était fortement liée au culte. Les Cananéens ont enseigné tout le monde, tout le peuple doit se prostituer avec des prostituées qui étaient placées vers les hauts lieux pour induire Baal à créer une bonne moisson l'an prochain. Donc, vous voyez, le culte de Canaan, ça a détruit toute la moralité en Israël. Et en général, donc, les époux ont pratiquement tous rompu le lien de mariage à cause de cela. Et pour donc insister sur le contraste entre le culte pour l'Éternel vis-à-vis du culte de Canaan, Dieu avait dit on n'a pas le droit de voir un tout petit peu de la chair du corps lorsque les sacrificateurs accomplissaient leur service. C'est pour ça qu'il ne fallait pas construire des escaliers. Mais, voyons, Jéroboam, pour lui, il n'était pas tellement intéressé à cette éthique de la sexualité qui est présentée par la Bible, où la sexualité est un cadeau de Dieu, mais seulement dans le cadre du mariage, eh bien, il a établi une montée avec des escaliers. Voilà plusieurs vues. Et vous voyez la plateforme, le haut lieu sur lequel se trouvait le veau d'or. Vous voyez les escaliers larges qui menaient vers le veau d'or. Et vous voyez là les pierres qui composent ce haut lieu. Mais vous voyez la qualité de pierre. Et ça date de presque 3000 ans. Et voilà, à côté, on a trouvé des maisons des sacrificateurs, comme la Bible en parle des maisons, des hauts lieux pour les faux sacrificateurs que Jéroboam avait choisis. Voilà. Et maintenant, nous allons encore voir les murs de la ville au temps d'Akab. Akab, j'ai déjà expliqué, avait régné à la fin du 10e et au commencement du 9e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, il y avait Akasia et Joram. Et ces murs de la ville que vous voyez ici datent de cette époque d'Israël. Maintenant, vous voyez la porte de la ville au temps d'Akab. Pour entrer, on est ici en dehors de la ville, et nous allons maintenant entrer. Voilà le parvis juste devant la porte d'entrée. Et maintenant, vous voyez là, vers la porte, nouveau, un haut lieu. C'est exactement comme la Bible présente cette manière de servir les faux dieux. Maintenant, nous sommes à l'intérieur de la ville, juste derrière la porte d'entrée. Vous voyez là la porte d'entrée depuis l'intérieur. Nous allons passer à travers. Et à l'intérieur de cette porte d'entrée, on a trouvé le siège du juge. Donc, sur ces pierres élevées, il y avait autrefois le trône du juge, et à côté, vous voyez les bases de colonnes en bois pour porter un toit au-dessus du juge. Eh bien, cela nous explique des choses comme est décrit en 2 Samuel 19, 8. Il s'agit là, dans un autre contexte, du roi David. Et le roi se leva et s'assit dans la porte. Et on rapporta à tout le peuple en disant, voici le roi est assis dans la porte. Et tout le peuple vint devant le roi, et Israël s'était enfui chacun à sa tente. Vous voyez, c'était normal en Israël, le juge était placé dans la porte de la ville. Et lorsqu'on avait des difficultés avec les autres personnes, il fallait venir devant le juge, mais dans la porte de la ville. Ça, c'était la place normale. D'ailleurs, aujourd'hui, on a déjà lu en Juges 4 de Déborah, qui était juge, femme juge, puisqu'il n'y avait pas d'homme qui était prêt à servir Dieu à l'époque. Mais on a lu qu'elle était juge à la maison, chez soi, sous son palmier. Donc ça, c'est remarquable. Elle s'est dit, oui, je dois conseiller par la parole de Dieu ce qui est juste, ce qui est injuste, mais je ne peux pas prendre la place de l'homme dans la porte des villes. Je le fais à la maison chez moi. C'est remarquable, cette différence. Voilà, l'archéologie nous aide pas seulement à confirmer la crédibilité de la parole, mais elle aide aussi à illustrer des choses de la vie journalière pour comprendre mieux ce qui est décrit dans la parole de Dieu. Et pour finir, j'aimerais encore mentionner la stèle de Tel Dan qu'on a trouvée. C'est la grande découverte d'Abraham Biron. Il a trouvé donc un reste d'une grande inscription syrienne du roi Hazaël, que nous connaissons de la Bible, n'est-ce pas? Et il décrit comme il avait autrefois conquis Dan, et il décrit une guerre avec le roi des 10 tribus et le roi des 2 tribus au sud. Et c'est exactement cette guerre qui est décrite en 2 rois 9. Donc on a ici un écrit de l'époque, mais une description extra-biblique. Et voilà, j'ai encore souligné ici 2 mots dans ce texte. Si vous lisez ça, ça veut dire Beit, ici, Beit David, maison de David. Tiens, dans les années 90, c'était fantastique cette découverte parce que les critiques jusqu'alors avaient dit David, le roi David, c'est une invention des écrivains de la Bible. David n'a jamais vécu. Tiens, il est question ici, le roi Hazaël parle du roi d'Israël, des 10 tribus, et il parle du roi des 2 tribus en parlant du roi de la maison de David, un descendant de David. Et voyez, à l'époque, c'était pas encore longtemps après David, le nom de David mentionné. Et maintenant, je peux vous illustrer comment les critiques pensent. Alors, on s'est dit, mais c'est... Non, il ne faut pas lire ça comme « Beit David ». Mais il faut lire ça comment? Nous ne savons pas, c'est un mot que nous ne connaissons pas. Mais on peut lire « Beit David ». Oui, oui, on peut lire, mais vous voyez, entre les mots, il y a toujours des points. Vous voyez? Les points font la distinction entre les mots. Mais là, pour écrire « Beit David », le point manque. Donc, c'est impossible de lire ça, Beit David. C'est autre chose. David n'a pas vécu. Eh bien, on vient de trouver une autre inscription en Israël où la maison, le temple de Salomon est mentionné, qui est appelé Beit Adonai, maison de l'Éternel. Comme d'ailleurs dans le texte que nous venons de lire de Jéroboam, il avait les deux termes, Beit David, maison de David, et aussi la maison de l'Éternel, Beit Adonai. Et sur cette inscription qui mentionne le temple de Salomon, entre Beit et Adonai, il n'y a pas de point. Donc, on réalise, lorsque deux mots sont bien liés ensemble, comme un terme, il ne faut pas mettre de point. Donc, c'est absolument ce qu'il faut. Pas de point, puisque Beit David, c'est un terme fixe, la maison de David. Donc, cette stèle de Tel Dan correspond avec 2 rois 9 et 2 chroniques 22. Et il est question de Hadad, roi de la Syrie, de Hazaël, roi de la Syrie, qui a écrit cette stèle. Et il est question de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, et Akazia, fils de Joram, roi de Juda, et le roi David, et sa dynastie est mentionnée. Donc, une inscription qui fait allusion donc, à 5 personnes connues de la Bible. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose hors du normal. Nous avons des dizaines de noms propres de personnes connues dans l'Ancien Testament mentionnés sur les inscriptions. Des dizaines, je pourrais vous montrer. Donc, bien sûr, ici, ce sont des personnes bien connues, mais il y a aussi, on a aussi trouvé des inscriptions avec des gens de l'Ancien Testament qui n'avaient pas une si haute position, mais qu'on peut clairement identifié avec la personne dans la Bible. Eh bien, j'aimerais finir par la parole du Seigneur Jésus en Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Nous sommes dans une époque où on attaque la crédibilité de la Bible comme jamais dans l'histoire, mais jamais dans l'histoire on avait autant d'arguments pour la crédibilité de la parole de Dieu. Et même là où, dans le passé, des critiques croyaient avoir trouvé une erreur, la recherche continue et on peut dire aujourd'hui, non, ce n'était pas une erreur. Les chercheurs étaient dans l'erreur.